Mondial Sport sur RFI. Christophe Dirindzian.
Bonsoir à tous. Mondial Sport en direct jusqu'à 22h, temps universel. Une demi-heure de résultats, de réactions, de reportages et d'entretiens. Bref, la panoplie complète d'une émission multisport qui va démarrer avec l'actualité football et la 18e journée de la Liga Espagnole. L'Atlético de Madrid qui résiste au FC Séville dans le choc au sommet, tandis que le Real battu replonge dans ses travers. Le point dans un instant avec Pierre Chaperon. La nouvelle cagade de Marseille, sortie dès les 32e de finale de la Coupe de France par une équipe de 4e division. Semaine chargée en perspective à Dakar avec l'attribution du trophée du meilleur joueur africain 2018 et de la CAN 2019. Grosse organisation logistique en amont et un peu coûteuse, ce qui a fait grincer quelques dents. Dakar toujours, mais à 2 ou 4 roues. Le rallye sud-américain s'élance demain pour 10 jours, mais les temps sont durs. Seul le Pérou servira de terrain de jeu aux concurrents engagés pour la gagne ou simplement pour la passion. Reportage d'Éric Sanson. Et puis en fin d'émission, nous lèverons un coin du voile sur le secret de la réussite du handball français. Filles et garçons, ils ne quittent plus les podiums des compétitions internationales. Les hommes vont encore tenter de le montrer à l'occasion du Mondial 2019 en Allemagne et au Danemark. Les dessous de plus de 20 ans de performance et d'excellence par le directeur technique national Philippe Bana.
Mondial Sport sur RFI.
Allez, comme promis, l'actualité chaude du football au coup d'envoi de ce Mondial Sport avec le seul grand championnat européen à l'œuvre ce week-end, la Liga Espagnole. On en est à la 18e journée et comme d'habitude, on retrouve notre correspondant à Madrid, Pierre Chaperon. Bonsoir Pierre.
Bonsoir Christophe.
Avec un match qui se termine en ce moment, le Barça leader affronte Getafe 7e en débutant cette journée. Pour l'instant, c'est bien parti pour le Barça qui mène.
Oui, on est dans le temps additionnel. Il reste d'ailleurs 2 minutes dans ce temps additionnel. Le score 2-1 pour le Barça, qui est en phase offensive en ce moment. Je vous raconte les buts. But de Messi à la 20e minute. L'Argentin, sur un ballon piqué de Arthur, profite d'une mésentente de la défense de Getafe pour trouver un angle fermé du Messi tout craché. À la 39e, Luis Suarez, d'une volée du droit à l'extérieur de la surface, marque le 2e but avant que Jaime Mata ne réduise le score sur une remise d'Andrel Rodriguez. Beaucoup de rythme dans cette partie qui a lieu dans la banlieue de Madrid et puis surtout Getafe 7e, vous le disiez, avant cette rencontre qui, malgré un début de match où ils étaient dominés, eh bien ils sont loin d'être ridicules. On retiendra notamment cette tête surpuissante à la 60e minute de Victor Antunes, superbement sorti par Ter Stegen.
Le choc de la journée, Pierre, c'était quand même plutôt en Andalousie. Score de parité entre le 3e Séville qui recevait l'Atlético 2e.
Oui, un but partout entre les deux poursuivants sous un beau soleil et de la fraîcheur et des buts 100% français. Tout d'abord Ben Yedder, après un bon travail de Jesus Navas sur la droite qui centre en retrait. Le défenseur portugais Carriço prolonge pour Ben Yedder qui, bien couvert par le madrilène Savic, peut frapper 1-0 à la 37e minute. Un but qui vient en somme toute récompenser une bonne entame de match. Et puis juste avant la pause, 47e minute, Antoine Griezmann vient mettre un superbe coup franc obtenu par le Ghanéen Thomas Partey. Il enroule sa frappe, le français, et trouve le côté gauche, un but partout. La deuxième mi-temps sera du même tonneau. Match très sympa, un peu heurté, 12 cartons jaunes distribués, 12 comme le nombre de tirs cadrés, dont 7 pour l'Atlético. À noter le match 5 étoiles du franco-ivoirien Joris Nianion, ancien Rennais, deuxième titularisation en Liga cette saison. Il a quand même éteint plusieurs fois l'ami Griezmann, il s'est pas du tout posé de questions. Très bon début, en tout cas pour le français. L'Atlético et Séville 35 et 33 points au classement. Il reste 2e et 3e. L'Atlético, on en parlait, qui vit un mois de janvier assez compliqué côté transfert. On va bien évidemment évoquer le cas de Lucas Hernandez sollicité par le Bayern, mais il y a aussi Diego Godin qui est en fin de contrat à la fin de saison et qui pourrait s'en aller du côté de l'Inter Milan. En revanche, selon la radio espagnole, Yann Oblak devrait lui prolonger.
Alors, une équipe qui est en train de rater complètement son début d'année, c'est le Real Madrid. Après son nul de partout à Villarreal en milieu de semaine, et bien les Merengues ont été battus à domicile, cette fois 2-0 par la Real Sociedad.
Oui, on va évacuer les buteurs. Première minute, William José ouvre le score sur pénalty. À la 82e, sur une contre-attaque, Pardo marque le 2e but. Un Real qui a joué à 10 dès l'heure de jeu après l'expulsion pour 2 jaunes de Lucas Hernandez. Entre ça, toujours les mêmes soucis, la justesse, l'application, même s'il faut dire qu'ils ont tout tenté. Le souci, c'est que le public peu nombreux ce soir, s'impatientent. On a entendu énormément de sifflets, beaucoup de mécontents dans les tribunes. Bien entendu, les principaux visés sont la direction qui n'aurait pas dû laisser partir Cristiano Ronaldo, l'entraîneur qui n'est pas au niveau. Modric ce soir, le ballon d'or, lui tire la sonnette d'alarme et pointe du doigt le manque de concentration, notamment. C'est donc la crise. El País, le quotidien généraliste espagnol, dit que cette rencontre renforce la crise, tandis que AS voit la Liga s'envoler. Comme l'an passé, en fait, Christophe, le Real perd son premier match de la saison à domicile, et comme l'an passé, le Real semble déjà regarder ailleurs. Le championnat s'est peut-être, voire sûrement, définitivement envolé ce soir. Le Real qui vient de confirmer, ça vient de tomber, hein, l'achat du milieu offensif Brahim Diaz, hispano-marocain de 19 ans, en provenance de Manchester City. Au classement, le Real est 5e avec 6 défaites dans la musette après 18 journées de championnat.
Merci beaucoup Pierre Chaperon en direct de Madrid. Les 32e de finale de la Coupe de France maintenant, suite et des matchs et des fiascos pour les clubs de Ligue 1 face à des formations censées être largement à leur portée. Après Angers, le flop de la journée, eh bien il est pour Marseille, battu 2-0 par Andrézieux, une commune près de Saint-Etienne en National 2, une qualification pas historique puisque le club avait déjà atteint les 16e de finale en 2015. Mais battre l'OM, évidemment, ça fait quelque chose pour le défenseur Anthony Vacheron, heureux au coup de sifflet final.
Ça y est, c'est fait. Après, je pense que le héros aujourd'hui, c'est le groupe, c'est toute l'équipe. On avait à cœur de gagner pour tous nos bénévoles, notre staff, et on avait notre capitaine blessé. On a un joueur qui vient de Corse qui est blessé aussi. Donc on avait vraiment à cœur de se battre pour eux. Et aujourd'hui, il y a la victoire qui va avec, donc c'est parfait. C'est ça, on peut que remercier le public qui a répondu présent en nombre. Ils nous ont pas lâché de la première à la dernière minute. Pour nous, le 12e homme, ça a été essentiel aujourd'hui. Et on les remercie pour cette victoire.
Anthony Vacheron au micro d'Eurosport. L'OM désormais éliminé de toutes les coupes, qu'elles soient nationales ou européennes. Les autres formations de l'élite n'ont pas toutes évité la grosse désillusion. Bordeaux, par exemple, a été sorti par Le Havre, club de Ligue 2, 1-0. Mais partout ailleurs, la hiérarchie a été respectée, que ce soit pour Monaco, Reims, Rennes et Saint-Etienne, facile vainqueur 6-0 de la plus petite équipe de ces 32e, l'Olympique de Strasbourg, 7e division. Notez qu'un autre club de Ligue 1, Nice, a été éliminé 4-1, mais par Toulouse, un adversaire du même niveau. Enfin, en ce moment, le PSG en termine avec son match contre le GSI Pontivy, une commune de Bretagne qui avait réussi l'exploit de qualifier ses deux clubs de foot pour les 32e. Le stade pontivien a été sorti hier et, sans surprise, le GSI est en train de prendre le même chemin puisque le PSG, à quelques minutes de la fin, mène 4-0. Un détour par l'Angleterre pour la suite du troisième tour de la Cup. Manchester City n'a pas fait de détails face à Rotherham, 2e division, écrasé 7-0 grâce notamment à un but de Riyad Mahrez. En revanche, Leicester a en quelque sorte imité Marseille en tombant aussi face à une équipe de 4e rang national, Newport County, 2-1. Voilà pour le foot européen, le foot africain maintenant dans Mondial Sport avec vous, Antoine Grenier. Bonsoir.
Bonsoir Christophe, bonsoir tout le monde.
Ce monde du foot africain qui sera demain à Gorée, l'île au large de Dakar, à la veille de la remise des trophées de la CAF, dont celui de meilleur joueur africain de l'année.
Et les CAF Awards, la cérémonie annuelle de la Confédération africaine. Ce sera mardi, des journées décisives en ce qui concerne les récompenses individuelles avec, pour rappel, hein, le local de l'étape, Sadio Mané, face à Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, tous trois en lice pour le titre de meilleur joueur africain. Des CAF Awards qui se tiendront à Diamnadio, à une trentaine de kilomètres de Dakar. Cérémonie dont l'organisation a suscité quelques remous au Sénégal en raison de son coût, $1,600,000, pris en charge par l'État sénégalais. C'est trop, considèrent certains. À Dakar, les précisions de Babacar Fall.
$1,000,000 de subvention à la CAF et $600,000 pour le comité local d'organisation. En somme, près d'1 milliard de francs CFA. C'est la grosse somme d'argent que l'État sénégalais a dépensé pour ses CAF Awards. Le ministre des Sports, Matarba.
Ce débat-là n'a pas sa raison d'être. Pour l'épanouissement de la jeunesse sportive sénégalaise, qui a toujours connu Eto'o à travers les écrans, Drogba et autres, Elhadj Diouf et les Sadio Mané et les autres, Aliou Cissé, tous ces gens-là auront un moment de communion avec le peuple sénégalais. Ce débat-là ne devrait pas se tenir ici au Sénégal.
Le Sénégal n'avait pas à donner de l'argent à la Confédération africaine de football pour l'organisation de cette cérémonie du Ballon d'Or, selon Pape Diouf, l'ancien président de l'Olympique de Marseille.
C'est d'autant plus scandaleux que quand on prend la CAF, qui est déjà une institution assez riche, une institution proportionnellement plus riche que l'État du Sénégal, je trouve assez incohérent, disons, cette manière de procéder.
Pour le ministre des Sports, cette subvention et plutôt en investissement.
En réalité, il y a plus de 300 invités qui dorment dans nos hôtels et dans nos réceptifs hôteliers. Et ils seront pris en charge ici. Tout sera investi au niveau du Sénégal avec des entreprises locales. Cela, c'est le côté économique dans le domaine du tourisme, dans les autres domaines qui peuvent accompagner le développement économique et social aussi.
Pape Diouf, pas convaincu.
Mais quelle retombée? Est-ce que vous pouvez me faire le recensement des retombées que le Sénégal peut attendre d'une telle organisation? À part, je dirais, quelques hôteliers, à part, c'est vrai, quelques maisons de location de voitures de luxe, qui voulez-vous véritablement qu'ils tirent parti de cette organisation? En tout cas, c'est une organisation que le peuple et le public va regarder de très loin, parce qu'on regardera peut-être à la télévision. On m'a parlé d'affaires de prestige. Le prestige aujourd'hui pour le Sénégal, je crois qu'on doit commencer d'abord par refaire les stades de Dakar, ne serait-ce que les stades de Dakar, les principaux stades, qui sont tous défectueux.
Les dirigeants sénégalais qui estiment avoir bien fait en accueillant les CAF Awards, qui pourraient ouvrir au pays les portes de l'organisation d'une CAN senior les prochaines années. Babacar Fall, Dakar, RFI.
Et précisons qu'après ces CAF Awards, la Confédération africaine de football a prévu d'annoncer mercredi quel pays organisera la CAN 2019. C'est l'autre enjeu de cette étape sénégalaise.
Une séquence foot féminin au Cameroun. Gaëlle Nguenamouit, sacrée meilleure joueuse africaine en 2015, va à son tour former de jeunes footballeuses.
L'internationale camerounaise de 26 ans a en effet ouvert son académie à Yaoundé. L'attaquante qui ne s'est pas laissée abattre après avoir raté le pénalty décisif face au Nigeria en demi-finale de la dernière CAN féminine, ce qui lui a d'ailleurs valu de voir sa maison familiale vandalisée. Mais il en faut plus pour décourager la première Camerounaise à marquer un triplé en Coupe du Monde. C'était face à l'Équateur en 2015. Elle souhaite promouvoir le foot féminin dans son pays et aider à faire émerger une nouvelle génération. C'est en tout cas le but de cette RAI, comme les rails du chemin de fer, hein, cette RAI Football Academy qu'elle a inaugurée samedi. Joël Wedem y était.
Megan, 17 ans, élève en classe de terminale, joue en première division. Le rêve de cette jeune fille qui pratique le football depuis l'âge de 6 ans a toujours été d'affronter lors d'une rencontre les stars de l'équipe nationale de football féminine du Cameroun. À travers la détection des joueuses de l'académie de Gaëlle Nguenamouit, elle a pu disputer un match contre le Ballon d'Or africain 2015 et certaines autres joueuses à l'instar de Gabrielle Aboudi-Ongene et Raissa Fujo. Megan est sous un petit nuage.
J'ai été tellement émue d'avoir joué avec mes grandes sœurs dans le football féminin parce qu'on a toujours eu à les voir à la télé. Mais aujourd'hui, j'ai eu la fierté là d'avoir pu affronter mes grandes sœurs en direct, de pouvoir cricher quelques qualités d'eux pour pouvoir approfondir mon football. Je prends l'exemple sur le jeu de Fedjo Raissa. J'ai vu qu'au milieu de terrain, je ne suis pas physique et elle m'a appris beaucoup de choses pour pouvoir garder et beaucoup récupérer les ballons au milieu de terrain.
Maëva, 15 ans, élève en seconde C, sait exactement ce que l'académie lui apportera.
Je veux qu'une joueuse comme Fedjo Raissa, parce qu'elle joue au milieu de terrain en 6.
Et c'est facile, c'est difficile?
Non, c'est pas difficile. Si tu crois en ce que tu fais, tu vas t'améliorer. Il faut avoir la confiance en soi-même d'abord, dans ce que tu veux faire. Comme Nguenamouit a organisé son tournoi, c'est pour nous faire travailler et faire nous améliorer au fur et à mesure.
L'attaquante Gaëlle Nguenamouit revient sur la création de cette académie de football féminin.
L'idée m'est venue du fait que j'ai eu un début dans le foot très difficile parce que la formation n'a pas été correcte. J'ai toujours joué avec des garçons et ça n'a pas été facile. Nous-mêmes, nous savons qu'en Afrique, plus particulièrement au Cameroun, nous n'avons pas de centre de formation des filles. Ce qui fait que les filles sont toujours en train de travailler avec les garçons. Je suis très contente parce que je vois plus de 80 filles et vraiment ça montre que les filles veulent vraiment s'y mettre dans le foot, mais nous comprenons qu'il n'y avait pas de moyens et aujourd'hui la Fondation L'Enfant des Rails est là pour ce développement, pour aider ces jeunes filles à avoir une carrière bonne demain. Généralement dans les détections, ce sont les encadreurs qui mettent en place et nous les professionnels nous venons entraîner les jeunes parce que déjà nous sommes leurs idoles, ça va leur faire plaisir de jouer avec une petite fille qui veut ressembler à Boudji demain, une petite fille qui veut être comme Gondom. Et Gondom va montrer comment elle planche. Et en fait, c'est ça le concept et le but. Et dans le cadre de la fondation à long terme, nous allons voir peut-être un Samuel Eto'o qui va entraîner les jeunes filles demain. Donc c'est sur ça que nous allons nous baser, essayer de faire la différence.
Pour Raissa Fejou, milieu de terrain des Lions Indomptables, cette académie permettra d'assurer la relève.
J'espère que dans l'avenir, on aura des grandes stars telles que Nguenamouit elle-même, Aboudi Ongene, pourquoi pas. Nous, d'avant, on a eu beaucoup de difficultés atteindre ce niveau, vu qu'on n'avait pas des moyens. Et aujourd'hui, à voir que Ngannamouït est en train de mettre des moyens, en espérant que beaucoup de grands frères et de sponsors aussi viendront à son soutien pour que le projet soit vraiment quelque chose de grandiose, parce que ce sera une très bonne relève pour le Cameroun dans la sortie des grandes stars.
Franck-Éric Neko, le directeur de l'académie, présente le programme de détection.
Aujourd'hui, nous avons rassemblé 80 jeunes filles de 8, 12, 13, 15, 17, 20 ans. Toutes sont scolarisées. L'idéal pour elles, c'est d'être une footballeuse à 16 ans qui a son baccalauréat, qui peut postuler dans des sports d'études en Europe. Et pourquoi pas jouer au haut niveau en Champions League européenne, surtout féminine. Le programme de détection qui va être mis sur pied, il y a la FENASCO, les jeux scolaires, lycée et collège. Ensuite, nous avons les jeux universitaires. Nous avons les championnats de vacances qui commencent à être organisés dans les différents villages.
Grâce à l'académie de football mise en place par l'attaquante Gaëlle Ngannamouït, la relève pourra être assurée d'ici quelques années et le Cameroun pourrait enfin remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations féminines. Joël Wadem, Yaoundé, RFI.
Du sable, du sable et encore du sable. Non, le Dakar 2019 n'est pas revenu en Afrique, mais l'esprit du rallye raid des origines soufflera sans doute un peu plus fort pour cette 41e édition en Amérique du Sud. Un Dakar organisé par le seul Pérou, 5000 km de course pour les professionnels, mais aussi ces amateurs éclairés qui se préparaient encore ces dernières heures sous les yeux de notre envoyé spécial Eric Sanson.
Sur la piste surchauffée de la base de Las Palmas de l'armée de l'air péruvienne, les avions de chasse ont laissé la place aux véhicules du Dakar. Christian Lavieille fait partie de la liste des pilotes d'élite du rallye, avec déjà 16 participations, 3 top 10 et une victoire en catégorie marathon il y a 2 ans. Après avoir abandonné l'an dernier, il revient avec des ambitions intactes.
L'objectif cette année, c'est de regagner la catégorie. Sportivement, je pense que ça va être très bien. Ça va être difficile parce qu'il y aura beaucoup de dunes, beaucoup de franchissements. On sait qu'ici au Pérou, les dunes sont assez compliquées.
Tous les concurrents du Dakar n'ont pas le podium comme objectif, encore moins le chronomètre. C'est le cas de Gérard Tramoni. Né à Ajaccio, ce médecin anesthésiste à Lyon a d'abord accompagné les équipes médicales du rallye. Membre de l'association L'Enfant at l'Hôpital, qui médicalise des événements sportifs, sa motivation est d'abord de remonter le moral de ses enfants médicalisés, qui le connaissent comme Doc Dakar.
Vraiment du bien-être psychologique, ils ne pensent pas à leurs soins, ils pensent à autre chose dans leur longue journée d'hôpital où ils s'ennuient. Ils m'envoient des messages et je m'engage à répondre à 100% de leurs messages. Des messages d'enfants, comment tu te laves, comment tu manges, est-ce que c'est dur la course, peux-tu me prendre en photo une moto verte, voilà.
Né à Poitiers, Charlie Hertz fêtera ses 26 ans la semaine prochaine, quelque part dans le désert péruvien. Ayant commencé le motocross à l'âge de 5 ans, c'est son premier Dakar. Mais il a de qui tenir. Son père, qui l'accompagne au Pérou, vient de boucler un tour du monde à moto de 64 000 km. Charlie, tout rookie qu'il soit, s'estime bien préparé.
Avant, voilà, on avait juste besoin d'avoir les budgets, on pouvait partir et aller en Afrique. Pour ça, je le ferai ou pas. Et maintenant, voilà, ils demandent d'avoir un certain niveau à valider, justement. Donc, on est obligé de passer par la case, de faire un des 5 championnats du monde, voilà, de rallye. Même pour nous, je trouve ça bien. Ça nous permet déjà de mettre un premier pas sur la navigation. Puis c'est vrai que ça roule vite, hein, quand même. Donc, ça nous permet de savoir vraiment dans quoi on met les pieds, quoi.
Claude Fournier, lui, n'est plus un rookie, mais n'en est tout de même qu'à son deuxième Dakar. Viticulteur de Sancerre à la retraite, son palmarès est impressionnant. Il a gagné la catégorie rookie des débutants lors de sa première participation en Afrique en 1991. À 67 ans, il n'est pas là pour faire de la figuration.
J'étais champion du monde l'année dernière en rallye raid. Et cette année, j'ai fait le Maroc, j'ai fait le Qatar, j'ai fait le Kazakhstan, il y a des dunes. Je pense que ça va être très dur, plus concentré. 80% dans les dunes, on est tout le temps en apnée.
Benjamin Melot a commencé comme mécanicien à KTM, la marque qui entend bien défendre sa suprématie dans la catégorie moto. Pour lui, le Dakar est une leçon de vie. Quand on tombe, on s'y relève. Après avoir abandonné l'an dernier, il était pour lui hors de question d'en rester là.
Pour un mécano, c'est con, mais j'ai cassé le moteur à la 8e étape.
Il n'a rien à faire, même quand on est mécano.
Non, je ne suis pas magicien. J'ai essayé, mais... Dommage, donc cette année on va essayer d'aller au bout.
Et pour ceux qui casseraient très tôt, le rallye leur permet désormais de réparer leur machine et de se réintégrer à la deuxième semaine de course pour participer à un classement parallèle. Une évolution des règles approuvée par de nombreux concurrents comme Christian Lavieille.
Ça permet à celui qui fait son premier Dakar ou son seul Dakar, qui a économisé depuis des années, d'aller au bout de son rêve et puis de peut-être de franchir l'arrivée.
Philippe Boutron en est à son 7e Dakar, une passion qu'il réussit à caser entre la gestion d'un supermarché et son rôle de président du club de football d'Orléans. Dans son bogie deux roues motrices, il s'attend à une course dure mais belle.
Déjà l'an dernier, les dunes du Pérou avaient été très difficiles. Je pense qu'on va manger beaucoup, beaucoup de sable. Des champs de dunes à perte de vue.
Ça récupère l'esprit Dakar ?
Ah oui, complètement. Ça reste une vraie aventure. Puis là, je pense que la difficulté du sable, plus la navigation, parce qu'il va y avoir beaucoup de traces, et le Dakar va retrouver ses lettres de noblesse.
Le grand départ est prévu ce lundi, direction la ville de Pisco, qui se remet lentement du terrible tremblement de terre d'août 2007, qui avait provoqué la mort de près de 600 personnes, et attend du passage du rallye un coup de pouce économique. Eric Sanson, Lima, RFI.
Voilà les dernières vérifications mécaniques des concurrents du Dakar qui s'élancera donc demain de Lima pour Pisco, 331 km, dont 84 de spécial. Quand il n'y a plus de handball international, il y en a encore. À peine digéré le premier sacre européen de l'équipe de France féminine à domicile, revoilà les garçons et leur insatiable appétit de victoire. Jeudi démarrera en Allemagne, au Danemark, le Mondial 2019. Les Français tenant du titre entreront en lice vendredi avec la ferme intention de rester en tête et surtout la tête dans les étoiles et d'obtenir un septième sacre. C'est l'occasion ce soir de se pencher sur cette vingtaine d'années de régularité au plus haut niveau avec l'un des artisans de la transformation du hand français, Philippe Bana, le directeur technique national depuis 99 et auteur d'un livre, Le roman du hand tricolore. Il est venu nous voir cette semaine sur RFI pour nous raconter comment a démarré vraiment cette saga. Bonjour Philippe Bana.
Bonjour.
On va remonter à 1996 pour entretien. Vous êtes à l'époque DTN adjoint. Vous arrivez à une époque où le handball français a déjà connu des moments de gloire, mais vient de connaître un échec. Atlanta 1996, cette quatrième place qui signifie plus qu'une absence au podium des Jeux Olympiques. Quel est votre constat ?
Le constat, il est simple. C'est qu'on avait l'impression en 1995 que ce truc était arrivé, ce sport était arrivé au plus haut niveau. Et puis, on gagne qu'une fois. On s'égare, on parle pas suffisamment ou pas du tout de handball féminin à l'époque, on parle pas aux gamins, on est un petit peu recroquevillé sur nous-mêmes, notre performance s'étiole et ce sport est en train de plonger doucement mais sûrement vers le bas. À ce moment-là, on regarde tout ça de haut et on se dit bon sang, il y avait là une formidable énergie, il y avait une force, il y a des opportunités fantastiques, battons-nous, inventons un avenir. Je me souviens de cette une extraordinaire de l'équipe magazine qui disait « Y a-t-il une vie après les Barjots ?» On était donc condamnés à mourir, il fallait réussir et il fallait réagir.
Alors, la pérennité de ce handball français passait nécessairement par la création d'une véritable filière de formation, mais en y associant les clubs professionnels, et déjà, en soi, c'était un petit peu nouveau à l'époque.
Oui, personne n'avait fait ça. Il y avait l'idée qu'on était issus de l'école, que nos vieilles sports-études fonctionnaient depuis les années 80. Et puis, derrière, pas de centre national, un bataillon de Joinville en disparition, tout ce qui faisait la performance de ces équipes n'existait pas. Et puis, il y a l'idée, construisons une usine à champions, une vraie, une solide, avec des fondations, avec un vrai accord avec le sport professionnel, ce que personne n'avait fait. On a bâti dans ces années-là une véritable école de formation exemplaire dans le monde pour le handball français.
C'est pas du tout un système centralisé comme il en existait à l'époque, c'est-à-dire qu'on ne monte pas à Paris dans des grands pôles, on fait en sorte que le futur grand champion reste le plus près possible de son domicile.
Tu es heureux à 15 ans, tu vas être en pleine adolescence, c'est pas le moment de te transplanter, de fabriquer des bébés éprouvettes du sport. Donc on avait envie de laisser les gens dans leur environnement naturel, de les laisser près de chez eux. Tu dois faire maximum 100 km et revenir le vendredi voir ta famille, ton club, tes amis jouer, te préparer à naître un sportif professionnel ou un sportif de haut niveau que doucement vers 22, 23 ans quand tu as cohabité avec ton monde professionnel, que tu t'en ailles après à partir de 18 ans vers le centre de formation du club pro à 200, 300 bornes de chez toi, c'était quelque chose d'intelligent. C'était aussi l'idée de faire tourner 4 équipes masculines et 4 équipes féminines dans le monde entier 60 jours par an pour apprendre le bleu, blanc, rouge, pour fabriquer tout ce qui a fait la valeur de cette usine à champions.
Le système donc se met en place au fil des années. Les résultats n'ont pas toujours été au rendez-vous, notamment entre 2001 et 2006. Il n'y a pas eu de titre à cette époque-là. Et puis, il y a eu le Mondial 2007 en Allemagne qui a été un véritable traumatisme pour l'équipe de France pour des raisons d'arbitrage sur lesquelles on reviendra pas forcément. Mais là, à partir de ce moment-là, il y a eu une prise de conscience de Claude Onesta qu'il fallait quand même changer la méthode de management de cette équipe de France.
On est passé de l'ère de l'entraîneur qui envoyait des notes de service, qui donnait la consigne, ou quand on dit nous avons suivi les consignes du coach, quand on l'entend à la télé. Eh ben non, on est sorti de là, le joueur de la génération Y, le joueur du troisième millénaire, C'est quelqu'un qui est un collaboratif, c'est quelqu'un qui co-construit le projet avec les acteurs, ce que Claude avait très bien compris à l'époque. Et à partir de ce moment-là, les athlètes sont devenus des collaborateurs, des co-fabricants de pratiques de handball, du haut niveau, de leur qualité de jeu, de leur pratique de jeu. Et ils avaient la capacité à apporter quelque chose. Il s'agit pas de conduire à la place d'eux, il s'agit de co-construire. Récemment encore, en décembre avec les filles, on a co-construit la victoire de championnat d'Europe en France, et c'est une idée que le joueur est quelqu'un d'associé, c'est un collaborateur du projet, c'est un co-fabricant de ta perf, et ça c'est fondamental.
L'équipe de France féminine profite de plus en plus maintenant de la réussite du modèle mis en place depuis 20 ans. Ça n'est finalement que depuis 2016 que ça se passe très bien au niveau de la régularité des résultats, mais il y a 20 ans c'était quand même très compliqué pour le handball féminin, qui est un peu sorti de l'ornière en 99 avec la médaille d'argent mondiale. Mais c'était un peu un coup d'éclat et derrière, on ne savait pas encore trop comment vous alliez capitaliser sur ce premier succès.
Ouais, c'est un peu comme les garçons, c'est-à-dire 10 ans après, il se passe exactement les mêmes phénomènes. On commence par réussir, on est rien, on commence par réussir, on travaille, on finit par y arriver, on est champion du monde en 2003. Et puis, il n'y a pas de fond. Et petit à petit, on installe par une bonne collaboration avec un système professionnel, par le fait d'envoyer les filles à l'international jouer dans les meilleurs clubs mondiaux, puis en LFH qui aujourd'hui devient sans doute la ligue la plus forte en termes féminins, leur faire jouer tous les money time, leur donner des préparations physiques, développer l'encadrement autour d'elles, fabriquer une usine à champions dans tous les coins du monde, parce que c'est ça le handball aussi, hein. Il y a tous ces territoires d'outre-mer en plus qui appartiennent à la France, et que de Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et de l'océan Indien, des Antilles-Guyane, on voit arriver toutes ces filles formidables comme Orlane Canor et bien d'autres qui arrivent derrière, qui sont cette formidable idée que la France est partout dans le monde et qui donne cette valeur à l'équipe de France féminine.
Et le grand artisan de cette excellence, évidemment, du côté des filles, c'est Olivier Krumbholz. Son retour aux affaires en 2016 a coïncidé justement avec cette nouvelle grande série de performances. Ça aussi, ça vient quand même du fait que Olivier Krumbholz a aussi changé sa méthode de management, parce que sinon on serait peut-être pas forcément là.
Ce qui marchait dans le début des années 90, dans le début des années 2000, c'était effectivement rigueur, sérieux, combat, collectif. À un moment donné, quand ces filles ont été devenues professionnelles, il a fallu véritablement inventer là aussi la même histoire qu'en garçon. Comment on collabore? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Quel est le tissu? C'est vous les propriétaires de cette équipe, faites-en quelque chose. Il a su amorcer ce virage à son retour en 2016. Et du coup, on a obtenu, à une allure beaucoup plus rapide que celle des garçons finalement, le même type de résultat, parce que les gens étaient propriétaires de l'équipe de France.
Philippe Bonnat, vous êtes forcément un DTN heureux de tout le travail accompli, mais vous êtes aussi un DTN un petit peu inquiet de l'avenir du handball, notamment déjà de l'avenir olympique, parce que le handball, malgré toutes ses tentatives ces dernières années, est encore trop européen, et le CIO commence à montrer les dents en disant « Vous ne pouvez pas rester comme ça, parce que sinon, le handball disparaîtra purement et simplement du programme des Jeux Olympiques. »
On a pris deux cartouches, une après les Jeux Olympiques de Londres, en nous disant effectivement, attention, vous êtes trop européen, pas d'universalité, regardez le basket, le volley, ils font des choses sur la planète entière, et c'était tout à fait juste. On n'a pas tenu compte de ça à l'international, donc on a continué à se concentrer sur l'Europe. Quatre ans plus tard à Rio, le rapport est exactement le même. Le rugby à 7 est rentré dans le programme olympique, le basket 3-3 est rentré dans le programme olympique, le beach handball ne l'est toujours pas, et aujourd'hui ici, nous ne sommes pas capables au niveau international d'élargir cette force qui est le handball européen et le handball français, qui est la tête de pont d'un truc qui derrière a du mal à démarrer. Il faut aller en Afrique, il faut aller en Océanie, il faut aller en Asie, il faut investir tous les pays anglo-saxons qui ne pratiquent pas ce sport. Il y a un plan de développement d'urgence à mener pour que ce sport magnifique français ne soit pas en difficulté.
Merci beaucoup Philippe Bonnat, je rappelle le titre de votre ouvrage, le roman du hand tricolore, Les secrets de la performance durable. Il est paru aux éditions Marabout. Et l'équipe de France, elle continue de se préparer pour ce Mondial 2019 avec un premier match amical remporté hier à Rouen face à la Slovénie 30-85. Un autre, toujours avec les Slovènes, aura lieu demain. Voilà, Mondial Sport se termine. Merci à Valentin Vaner et Jean et Laurent Philippot pour la réalisation. Tout de suite, c'est 24 heures en France avec Loïc Bussière. Très bonne fin de soirée à tous.